Il est 3h, c'est Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement. Pour vous, encore un beau programme, Andrew Womack et la parole du jour, et puis plein de belles musiques.
La Bible dit:
chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun sera responsable de ses actes.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
We can decide if we are falling, because every single call is a chance to realize we're depending on the fate of our circumstance. We've been living minute to minute, we've been holding on to every breath. Somehow our hearts are still in it, but all our innocence is left. We're in for nasty weather, and I'll ride it out with you. We won't be riding highs and lows like tides of ocean blue. We won't be here forever, just a moment then we're through. We can't be shifting with the sands like seasons always do, like seasons always do. Everything we said was a reason for us to pick up our things and go. But even when we climbed up the mountain, we knew that we had nowhere to go. We're in for nasty weather, and I'll ride it out with you. We won't be riding highs and lows like tides of ocean blue. We won't be here forever, just a moment down the
Wrapped Up Kids, c'était Forest the People et il est 3h04. On est le mardi 7 mai, on est encore ensemble dans la nuit autrement et c'est jusqu'à 5h sur Phare FM. Notre programme se poursuit, ne manquez pas tout à l'heure Andrew Womack dans la série Vous l'avez déjà. Avant cela, de la musique. OM 53, 20-something, et tout de suite, Leandro Gonzalez avec Jamais Seul. Non, vous n'êtes jamais seul, c'est Phare FM qui vous accompagne. J'espère que vous allez bien. Bonne nuit à l'écoute de la radio autrement.
Minuit 5h, la nuit autrement.
Avec Mireille.
J'étais angoissé, j'étais désespéré. Pourtant déjà là, j'étais protégé. Tu es devenue ma raison pour chanter. Celle qui me pousse chaque jour à me lever. Dans ma solitude, tu t'es révélé. Pour me faire découvrir l'amour parfait. Jamais seul, jamais seul. Porque lo has prometido, no me dejarás. Jamais seul, jamais seul. Porque hasta el fin del mundo tú conmigo vas. Jamais seul, no, jamais seul. Porque nunca has fallado y nunca fallarás. Jamais seul, jamais seul. Porque siempre me amaste y siempre me amarás. Hoy sé que nunca solo me has de dejar. Pensé que nadie me iba a salvar de este vacío, de esa soledad. En mi corazón solo había oscuridad. Me faltabas tú, tu amor, tu verdad. Hoy tengo esperanza y te quiero cantar. Mi alma ha encontrado la felicidad. Me lo has dado todo, me llenas de paz. Gozando tu amor, mis miedos se van. Jamais seul, porque lo has prometido, no me dejarás. Jamais seul, porque hasta el fin del mundo tú conmigo vas. Jamais seul, no, jamais seul, porque nunca has fallado y nunca fallarás. Jamais seul, porque siempre me amaste y siempre me amarás. De dejar. Porque nunca has fallado y nunca fallarás. Jamais seul, no, jamais seul. Porque siempre me amaste y siempre me amarás. Hoy sé que nunca solo me has de dejar. Hoy sé que nunca solo me has de dejar.
Selfie.
20-something, so why you rushing? You wanna run and escape what's coming. Go ahead and go.
Le ministère d'Andrew Womack, en collaboration avec Phare FM, est heureux de vous présenter ses émissions « La vérité de l'Évangile » sur la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui, je continue à enseigner au travers d'une série que j'ai intitulée « Vous l'avez déjà ». Vraiment, c'est un enseignement puissant. J'apprécie de pouvoir partager ces vérités avec vous. Cela m'aide à revenir en arrière et à me rafraîchir la mémoire. Et en réalité, cette série est la continuation d'un de mes enseignements intitulé « Esprit, âme et corps », où il est question de votre véritable identité en Christ, dans l'esprit. Et c'est cette vérité qui m'a permis de comprendre la parole de Dieu. Et l'une des révélations majeures est de comprendre que c'est mon esprit qui est né de nouveau. C'est dans mon esprit que j'ai tout reçu. L'un des avantages ou l'une des révélations qui en a découlé est cet enseignement, vous l'avez déjà. Lorsque j'ai compris que mon esprit était complet, qu'il était aussi parfait qu'il ne le sera jamais, eh bien cela a complètement changé ma manière de voir les choses. Au lieu de demander à Dieu de me bénir, j'ai cru que j'étais déjà béni, Éphésiens 1:3. Au lieu de demander à Dieu de me guérir, j'ai cru que j'étais déjà guéri. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri, 1 Pierre 2:24. Et le verset que nous avons utilisé dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, sur l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité. Le fait de réaliser que j'avais déjà toutes ces choses a révolutionné ma relation avec Dieu. Au lieu de le supplier de me donner quelque chose, j'ai commencé à reconnaître ce qu'il m'avait déjà donné et à expérimenter ces vérités. Et je pourrais continuer à l'infini à vous montrer des manières d'appliquer cet enseignement. Presque tout ce que le Seigneur m'a montré, d'une manière ou d'une autre, rejoint mon identité en Christ et ma compréhension du fait que tous mes besoins, ce que j'ai maintenant et que j'aurai dans le futur, ont déjà été pourvus dans mon esprit. Et il me faut maintenant y puiser au lieu d'essayer de faire en sorte que Dieu me donne quelque chose de nouveau. Je suis sincère en disant que cela a transformé ma vie de manière radicale. Donc voilà ce que nous avons déjà abordé. Ces deux derniers jours, je me suis concentré sur Éphésiens chapitre 2, verset 8, où il est dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et au verset 9, ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc j'ai montré que la grâce est quelque chose que Dieu fait indépendamment de nous. Elle a été donnée il y a 2000 ans au travers de Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus, nous dit Jean chapitre 1. Donc elle a été donnée indépendamment de nous il y a 2000 ans. La provision a été faite avant que le besoin n'existe. Et la foi n'est pas quelque chose que nous devons faire pour faire bouger Dieu. Mais elle se repose plutôt sur ce que Dieu a déjà accompli. Et entrer dans ce repos demande des efforts. Ce que je veux faire aujourd'hui est d'utiliser ces versets dans Hébreux chapitre 4. Et ce passage n'avait aucun sens pour moi auparavant. J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre pendant longtemps. Regardez avec moi ce qu'avance ce verset. Hébreux chapitre 4, verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Comment s'efforcer à se reposer? Vous savez, quand vous êtes fatigué et que vous tombez de sommeil, vous n'avez pas besoin de vous efforcer à vous reposer. Vous vous allongez et vous vous endormez tout simplement. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'effort à faire, mais ici, il est question de s'efforcer à entrer dans le repos. Et à cause de ma mauvaise compréhension de ce passage, sa réelle signification m'a été cachée pendant longtemps. Mais maintenant, ce que j'explique sur la façon dont tout se fait en Christ, et ce qu'enseigne cette série, c'est apprendre à se reposer, à compter sur ce que Jésus a fait, sans chercher à faire d'efforts et à forcer pour obtenir ce que nous désirons. Maintenant que j'ai compris ces vérités, mes yeux se sont littéralement ouverts. Alors regardons ensemble le livre aux Hébreux, chapitre 4. Si vous lisez le chapitre 3, le contexte est le suivant. Les Israélites sortent du pays d'Égypte et il est dit que c'est à cause de leur incrédulité qu'ils ne sont pas entrés en terre promise. La génération qui est sortie du pays d'Égypte s'est mise à douter, a fait preuve d'incrédulité et a tenté Dieu dans le désert. Et à cause de cela, elle n'est jamais entrée en terre promise. Ce sont leurs enfants qui y sont entrés. Donc voilà le contexte et ce dont il parle lorsqu'il écrit au chapitre 4. Hébreux 4, 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Ceci est une déclaration radicale. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui proclament « La parole de Dieu promet ceci et cela. Je me tiens sur ces promesses. » Mais s'ils voient que rien ne se passe, ils affirment immédiatement « Eh bien, la parole de Dieu l'a dit, mais ça n'est pas arrivé. » Mais cela vous montre qu'il faut mêler la parole à la foi. Comme si la foi était l'ingrédient secret, ce qui fait que tout le reste fonctionne. Vous pouvez très bien avoir une Bible et la porter sous le bras. Vous pouvez même citer les Écritures. Mais si vous ne le faites pas par la foi, la parole de Dieu ne libérera pas sa puissance. Elle doit être mêlée à la foi pour que vous puissiez la recevoir. Donc les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, mais ils n'opéraient pas dans la foi. Ils étaient dans l'incrédulité et ils se sont rebellés 10 fois contre Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Nombre au chapitre 14, lorsqu'il est raconté qu'ils allaient rester dans le désert pendant 40 ans et y mourir, car ils l'ont eux-mêmes déclaré en disant « si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. » Alors Dieu a dit, « Très bien, je vais faire ce que vous avez dit, puisque vous m'avez tenté 10 fois. » Il a dit lui-même qu'ils avaient parlé 10 fois contre lui, lorsqu'ils ont douté qu'il puisse leur fournir de l'eau, et que Moïse a dû frapper le rocher d'où de l'eau est sortie. Ensuite, lorsque l'eau était amère et Moïse a dû mettre du bois dans l'eau, afin de la rendre saine, il se plaignit aussi de ne pas avoir de nourriture à manger. Et Dieu leur a envoyé de la manne. Puis ils se sont fatigués de la manne et ont réclamé de la viande, ce à quoi Dieu a répondu favorablement. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu 10 occurrences où ils se sont rebellés contre Dieu. Ce qui montre qu'ils n'étaient pas dans la foi, ils étaient dans l'incrédulité. Et pourtant, Dieu avait fait de grandes choses pour eux. Saviez-vous qu'il y a un parallèle direct entre ce récit et nous? Et certains d'entre vous, vous pensez peut-être, « Eh bien, je ne suis pas sorti d'Égypte, mais nous sommes sortis d'un endroit bien pire. » Pire que la servitude physique et l'esclavage, car nous étions esclaves du péché. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, que nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voilà ce que nous étions dans notre condition même. Mais il y a aussi d'autres versets qui expliquent que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Nous étions tous les serviteurs du péché. Nous étions tous ses esclaves. Et Jésus nous a rachetés de cet esclavage et nous a fait sortir d'une vie de défaite et de dépression. C'est bien plus que ce dont les Israélites ont été délivrés. L'esclavage physique n'est rien comparé à l'esclavage émotionnel et spirituel. Et la vérité est que si vous êtes né de nouveau, vous avez été délivré. Vous avez été ressuscité d'entre les morts. Vous avez été sorti de votre esclavage, tout comme ces gens. Mais eux, malgré avoir vécu une délivrance physique, n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas mélangé la parole avec la foi. Et à cause de cela, ils sont morts et n'ont jamais fait l'expérience de ce que Dieu voulait vraiment qu'ils aient. De même, il y a des gens qui regardent cette émission, qui ont invité le Seigneur dans leur cœur. Vous avez vraiment fait de Jésus votre sauveur. Si vous deviez mourir, vous iriez au ciel, mais vous ne faites pas l'expérience de la liberté pour laquelle Jésus vous a racheté, parce que vous n'ajoutez pas la foi à la parole. Vous vivez dans l'incrédulité totale, vous laissez les circonstances, les personnes et autres vous dominer, au lieu de laisser la place à la parole de Dieu. Je ne dis pas cela pour vous blesser. Je suis heureux que vous regardiez cette émission, gloire à Dieu. Je crois que c'est lui qui vous a fait tomber sur nos programmes, afin que vous puissiez entendre aujourd'hui des choses qui vous aideraient. Je ne dis pas cela pour vous blesser, mais je le dis pour vous éclairer et pour que vous puissiez reconnaître que vous n'avez aucune justification pour affirmer que la parole ne fonctionne pas. La parole fonctionne parfaitement, mais il faut y ajouter votre foi. Il est dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Puis au verset 3, il est dit, quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, et c'est une citation de Genèse chapitre 2, ou pour être plus exact, ce passage est tiré du psalmiste, de David, qui se réfère à Genèse chapitre 2, qui dit qu'après que Dieu ait créé les cieux et la terre, il s'est reposé le septième jour. C'est donc Genèse chapitre 2, et ensuite David se réfère à ce passage, et c'est cette citation de David que nous trouvons dans Hébreux. « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Il est question ici des six jours que Dieu a passé à créer la terre avant de se reposer de tout son travail. Au verset 4, en effet, il a parlé quelque part ainsi, au sujet du septième jour, il est question du septième jour de la création, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. C'est donc dans Genèse chapitre 2, après qu'il ait créé les cieux et la terre, il est dit que Dieu s'est reposé. Et ensuite, des centaines d'années plus tard, en réalité des milliers d'années plus tard, le prophète David, le roi David, a proclamé ce que nous lisons au verset 5. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Donc il est dit que Dieu s'est reposé le jour du Shabbat. Mais des milliers d'années plus tard, voici que David parle encore de repos, dans lequel beaucoup n'entreront pas. Et je vais maintenant résumer le reste de ce passage, car dans certaines versions, la formulation est compliquée. Ce n'est pas vraiment clair, mais voici ce qu'il est dit en substance. Que Dieu a dit qu'il s'était reposé le septième jour de la création. Puis des milliers d'années plus tard, David s'y est référé et a parlé du fait que certains n'entreront pas dans le repos du Seigneur. Et il citait Genèse chapitre 2. Cela vous montre donc que ce repos ne concernait pas seulement un événement, lorsque Dieu s'est reposé le septième jour, mais il est question d'un repos qu'il avait l'intention de nous donner. Et c'est ce dont parlent ces versets. Et lorsque Josué a conduit les enfants d'Israël en terre promise, ce n'était pas l'accomplissement complet de l'entrée dans le repos du Seigneur. Parce que des centaines d'années après Josué, le roi David continue d'affirmer que certains n'entreront pas dans ce repos. Il dit donc toutes ces choses, avant d'ajouter au verset 9, « Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu ». Donc il est encore question de repos. Et pendant longtemps, je ne suis pas parvenu à comprendre ce que signifie se reposer. Car pour moi, le repos, c'était s'allonger et ne rien faire. Après une longue journée de travail. Pourtant, nous sommes encouragés au verset 11 à nous efforcer à entrer dans le repos. Donc, se reposer n'est pas synonyme de ne rien faire. Ce n'est pas être totalement inactif. Et à cause de ma mauvaise compréhension de ce qu'est le repos, j'ai longtemps lutté avant de réaliser de quoi il s'agissait. Et en substance, voici ce que le Seigneur m'a enseigné. Lorsqu'il est dit que Dieu s'est reposé le septième jour de la création, ce n'était pas parce qu'il était fatigué. Pensez-y un instant, il venait de créer l'univers entier, de donner naissance à des millions, des milliards d'étoiles, à des planètes, de créer tous les animaux et les êtres humains. Il avait créé la végétation et tant d'autres choses encore. Donc on pourrait penser qu'il était forcément épuisé et qu'il a dû se reposer le septième jour. Mais non, l'Écriture dit dans Ésaïe, il me semble que c'est au chapitre 40, que Dieu ne se fatigue pas et qu'il ne s'épuise pas non plus. Dieu n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas besoin d'aller se reposer. Dieu n'est pas fatigué. Ce n'est pas comme s'il avait dit, « Si je crée une étoile de plus, je pourrais m'effondrer. » Non, Dieu ne s'épuise pas. Il n'était pas fatigué. Il ne s'est pas reposé dans le sens où il devait se rafraîchir. Lorsqu'on parle de repos, on parle du fait qu'il a tout simplement cessé son travail. Son œuvre était complète, elle était achevée. C'est semblable à un artiste qui peint un tableau. Il a tout donné et s'il n'ajoutait qu'un seul coup de pinceau, son travail passerait de chef-d'œuvre à échec, parce qu'il est terminé à 100%. Il ne peut rien y ajouter. Il est parfait, donc il se repose de sa peinture. Non pas parce qu'il est usé et parce que le pinceau est trop lourd. Il ne se repose pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il a tout simplement terminé son travail. Vous pouvez dire la même chose d'un avocat. En anglais, lorsqu'un avocat a terminé de présenter ses arguments, il annonce que la défense se repose ou que l'accusation se repose. Ce qu'ils avancent, c'est que leur présentation est finie, elle est complète. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, il n'y a rien d'autre que je puisse ajouter. Et c'est ce que le Seigneur a fait lorsqu'il s'est reposé le septième jour. Ce n'était pas parce qu'il était fatigué, c'est parce que son œuvre était complète. Et si vous vous souvenez des premières émissions, j'utilisais cet exemple de Genèse chapitre 1, où nous voyons que Dieu a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il l'a fait, il a rassemblé toute la terre ferme en un seul endroit. Puis il a créé la végétation, puis les animaux et toutes les créatures dans la mer. Et enfin, il a créé l'homme. Il a fait toutes ces choses. Puis il s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait terminé. Et la semaine dernière, j'ai fait remarquer qu'il n'a pas seulement créé l'homme et les animaux. Et soudain, l'homme a eu faim. Alors Dieu a dit, « Oh, j'ai oublié la nourriture. Alors laissez-moi vous créer quelque chose à manger. » Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il avait prévu que nous aurions besoin de manger. Il a donc créé toute la nourriture pour nous et pour tous les animaux dans la mer, ceux sur la terre, ceux dans les airs. Il avait tout prévu et avait créé la provision. Attardons-nous maintenant sur la création de la végétation, car c'est extrêmement important. Ouvrez Genèse chapitre 1, laissez-moi vous en lire un court passage. Il est expliqué au verset 11, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers, qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. » Donc c'est quelque peu verbeux et on aurait tendance à penser, « Oh, vous connaissez la Bible. Elle dit parfois des choses étranges. » Et on ne considère pas ce qu'il est dit, puisqu'on ne pense pas qu'il y ait un vrai sens derrière tous ces mots. Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement dit qu'il y ait des arbres, de la verdure et de l'herbe? Parce que s'il s'était contenté de dire cela, alors chaque fois qu'un de ces arbres serait mort, Dieu aurait dû en recréer un. Sans cesse créer de nouveaux arbres, de nouvelles herbes, de nouvelles plantes, de nouveaux fruits. Mais les mots utilisés ont un sens profond. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Ce que cela signifie, c'est qu'à la création, Dieu a non seulement créé les premiers arbres, les premières plantes, l'herbe et tout le reste, mais il a fait en sorte qu'ils puissent se reproduire. Il a créé chaque plante, chaque arbre, chaque fruit, chaque graine avec la capacité de se multiplier. Et il a fait la même chose avec les animaux. Il a dit aux animaux d'être féconds et de devenir nombreux. Et les animaux fonctionnent aussi avec des semences. Il a fait la même chose avec l'humanité. Il nous a dit d'être féconds, de nous reproduire et de remplir la terre. Saviez-vous que depuis la création originelle, Dieu n'a jamais créé un autre arbre, une autre plante, un autre animal, un autre oiseau, un autre poisson ou une autre personne? Il est vrai que nous avons tous été créés à son image, mais cela s'est fait par Adam et Ève et leurs descendants qui ont semé des graines. Nous ne sommes pas une création unique comme Adam l'a été. Nous sommes une extension d'Adam. Nous avons été procréés par Adam. Et la raison pour laquelle cela est significatif est que ça nous permet de comprendre qu'à la création, Dieu a pensé à tout de manière si complète que ça devrait nous émerveiller. Vous savez, plus j'en apprends sur la création, plus je suis étonné par la pensée de Dieu et les efforts qu'il y a mis. Par exemple, lorsque nous respirons de l'oxygène, lorsque nous respirons de l'air, nous exhalons du dioxyde de carbone. Et si Dieu n'avait pas fait en sorte que l'atmosphère puisse être purifiée, nous finirions par mourir d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Mais il a fait en sorte que les arbres, l'herbe et d'autres éléments de la création capturent ce dioxyde de carbone, l'utilisent et produisent de l'oxygène en retour. Dieu a pensé à tout cela pour ne jamais avoir à dire « Eh bien, je ne savais pas qu'il y aurait autant de gens sur la planète un jour. Il faut que je m'adapte et que je fasse une chose nouvelle. » Non. Quand il s'est reposé, il avait prévu tout ce qui pourrait arriver sur cette terre. Puis il est entré dans le repos. Il n'a jamais rien fait d'autre depuis. Il ne se lève pas chaque matin en disant qu'il y ait 1 million de nouvelles vaches pour remplacer toutes celles qui ont été tuées et mangées, qu'il y ait 1 million de nouveaux oiseaux pour remplacer ceux qui sont morts, qui se sont fait percuter par une voiture ou autre, et qu'il y ait 1 million de nouveaux insectes. Non. Il ne crée plus rien. Il a créé l'original et il a instauré la procréation afin que le processus de création continue. Et quand il est dit qu'il s'est reposé, ce n'est pas parce qu'il était fatigué, mais parce que la création était complète. Et il n'a jamais créé un autre animal, un autre oiseau, une autre personne. Il n'a pas besoin de créer de nouveaux animaux pour remplacer ceux qui sont morts, de nouveaux arbres pour remplacer ceux qui ont brûlé ou qui ont séché. Il a fait en sorte que la création puisse se maintenir et se multiplier. Et sans entrer dans les détails, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne crois absolument pas à toutes ces théories sur l'environnement et aux gens qui disent que dans 10 ans, la Terre sera inhabitable. Je viens de lire un article la semaine dernière sur toutes les prédictions faites dans les années 50 et 60. Elles affirmaient que d'ici 1970, le monde connaîtrait une famine extrême à cause du trop grand nombre d'êtres humains, comme si la Terre n'allait pas pouvoir supporter 5 ou 6 milliards de personnes. Bien sûr, avec le recul, nous savons que la planète le supporte, car nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'êtres humains. Et les États-Unis pourraient à eux seuls fournir suffisamment de nourriture au monde entier si nous supprimions toutes les restrictions et si nous développions cette industrie au maximum. Toutes ces prédictions se sont révélées fausses. Toutes les prédictions sur la fin du monde et sur le fait que nous détruisons cette planète fragile viennent de personnes qui ne comprennent pas que Dieu a anticipé tout ce que la race humaine ferait et qu'il a donné à la Terre la capacité à se réparer et à se nettoyer. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous devrions saccager cette planète. Je suis moi aussi en colère contre les gens qui passent en voiture et qui jettent leurs bouteilles vides et leurs détritus sur ma propriété. Vous ne devriez pas faire ce genre de choses. Je suis convaincu qu'il faut prendre soin de ce qui nous a été donné. Et je ne crois pas que la Terre soit fragile. Le climat a des cycles, il se régule tout seul. Toutes leurs prédictions sur tout ce qui pourrait arriver sont erronées. À l'époque, on parlait de période glaciaire. Quand j'étais enfant à l'école, on entendait que nous allions entrer dans une ère glaciaire. Et aujourd'hui, il s'agit du réchauffement climatique. Mais c'est tout simplement faux. Et ces théories ne tiennent pas compte du fait que Dieu est entré dans le repos. Il a anticipé tout ce qui allait arriver et a intégré dans sa création la capacité à s'adapter et à surmonter ce genre de choses. L'Écriture nous dit clairement à quoi ressemble la fin de ce monde et elle n'arrivera pas à cause de la pollution ou d'autres choses de ce genre. Dieu va détruire cette terre quand l'heure sera venue et quand il viendra une seconde fois. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'il s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait réfléchi à chaque détail de façon si complexe qu'il ne lui restait plus rien à faire. Il n'avait rien à ajouter. Cela nous concerne directement aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais laissez-moi vous donner un aperçu de ce que je vais partager demain. Il s'agit de notre nouveau nous. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et dans cette nouvelle création, dans notre esprit, Dieu nous a donné tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Tout comme pour la création, rien ne le surprend. Il n'y a aucun problème environnemental ou autre qui pourrait remettre en question ses plans pour cette planète. De même, il n'y a aucune situation que vous puissiez rencontrer qui puisse prendre Dieu par surprise et qu'il ne vous ait pas donné le pouvoir de surmonter. Lorsqu'il vous a créé, quand vous êtes né de nouveau en Christ Jésus, vous avez reçu en vous tout ce dont vous pouvez avoir besoin et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à se reposer dans ce que Jésus a déjà fait. Vous l'avez déjà, il vous faut arrêter de vous battre et entrer dans le repos.
Merci d'avoir suivi cet épisode de La Vérité de l'Évangile du ministère d'Andrew Womack, réalisé en collaboration avec Phare FM. Retrouvez-nous sur www.awmi.fr pour découvrir nos séries d'enseignements ou pour nous contacter. À une prochaine fois pour grandir ensemble dans la connaissance de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu.
Andrew Womack revient demain, c'est toutes les nuits, du lundi au vendredi dans la nuit, autrement sur Phare FM à 12h15 et 15h15. La parole du jour, le thème de ce mardi, de l'échec au succès, deuxième partie. On écoute maintenant Israël is over the rainbow. À tout à l'heure.
And the true.
Chaque jour, un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Ton commencement semblera peu de choses. Ta fin sera bien plus grande. Job 8, verset 7. De l'échec au succès, partie 2. Bonjour à tous. Il est plus facile de reconnaître le succès a posteriori. Pour certains, il peut s'écouler de nombreuses années avant d'y croire, de le célébrer et en prendre de l'assurance. C'est que l'on n'a pas la bonne perspective. À son point le plus large, le Mississippi nécessite un pont de 3 km de large pour le traverser. À sa source, c'est un ruisseau si petit que l'on peut sauter par-dessus. Mais c'est toujours le même fleuve. La plupart des choses commencent petit. Connaissez-vous la prière de sérénité? Elle ressemble à ceci. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de faire la différence. Elle a été priée pour la première fois dans une petite église du Massachusetts par le théologien Reinhold Niebuhr lors d'un culte du dimanche matin. L'assemblée était réduite ce jour-là, mais une personne a aimé la prière et après le service, elle a demandé une copie à Niebuhr. Le pasteur lui tend un morceau de papier froissé. « Tenez, je doute que je m'en serve encore. » Devinez quoi ? Après le « Notre Père », c'est la prière la plus utilisée au monde. N'est-il pas ironique qu'elle soit devenue si populaire? De toute évidence, son auteur n'avait pas conscience de sa portée. Maintenant, relisez ce verset et réfléchissez bien. Ton commencement semblera peu de choses, ta fin sera bien plus grande. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez transformer votre échec en succès et passer à de plus grandes choses.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, la radio autrement.
Alléluia, say amen. Devil had me in the grave, Jesus told him think again. Alléluia, that's what I said. Cause I'm a born again. Resurrected sinner, been forgiven. Yes, I am.
Some people tell me they don't recognize me. They say the man I used to be ain't here. They wonder how I got this joy and where it's from. They can't help but want some. It's clear. I just tell the story about the God who set me free.
I am.
Yes, I am.
No.
You might be standing there exactly where I was, getting lost and on the run. That's fine. I'll introduce you to somebody who can change any heart that comes his way, like you did mine. I just tell the story about the God who set us free. Forgiven, yes I am.
Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence.
Si tu crains un jour que je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer.
Oh, oh non, pas toi,
vraiment pas toi,
parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir, parce que c'est toi,
rien
que pour ça.
Parce que j'avoue, je suis pas non plus tenté de rester seul dans un monde insensé.
Si tu crois un jour que tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre, n'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer?
Et commence pas à te cacher pour moi. Oh. Ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore.
Parce que nous, c'est fort.
Parce que c'est toi, j'oserais tout affronter. Et c'est toi qui je pourrais pardonner.
Parce que c'est toi.
Toi, je voudrais un jour un enfant, et non pas parce que c'est le moment,
parce que c'est toi.
Je veux te voir dedans,
je verrai dans ses yeux tous ses petits défauts,
parce que parfait n'est plus mon créneau, parce que c'est toi.
Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir.
Parce que c'est toi,
rien que pour ça.
Parce que c'est toi.
Yannick, parce que c'est toi et parce que c'est vous, parce que vous écoutez Phare FM. Je vous propose la suite de notre programme. La troupe Gresto du cœur tout à l'heure avec la chanson Rêvons. Jamie Grace avec 1945 et tout de suite Joseph O'Brien, Something Different. À 4h, la suite du programme. Vous écoutez Phare FM dans la nuit autrement.
I've been trying. But I don't always do the things I know to do. And I'd be lying if I said most days I look just like you do. Yeah, but I hope there's something that they see in the life of love I lead. I got something that they need. And I hope in everything I do is a little more of you. There's something so different. They're wondering what's missing. Cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves it. A love that can make something different. Something different. Something different. Something different. My existence isn't living for myself. Always giving. Someone who lays my life down for somebody else. Hey, else. And be something so different. They're wondering what's missing. Cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves it. Make something different, something different, something different. Something so different. And be something so different. They're wondering what's missing. Cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves me. A love that can make something so right, love that's so bright.
My buckle up skates. How do I know about that? You say, you say. You wear bell bottom jeans, get a double take from all the guys and the girls who look your way. Back then, people didn't always agree, but the love going round was revolutionary.
the truth is I got here right on time. And I thank God for every day in my life. It suits me just right, it suits me just right. And lovely 1991, that's the year that I come from. And I wouldn't want to trade it for another time. I love this life, yeah, I love this life. Ooh, 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 ooh. I love this life. Ooh, 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 ooh. I love this life. Ooh, 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 ooh. Oh, I love this life. I love this life. Ooh, 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 ooh. I love, I love, I love, I love this life.
Star FM, ma radio.
Faire le bien.
On ne sait pas bien comment faire, mais faut plus se taire.
Ça n'a l'air de rien,
mais regardez la misère
pour la mettre à terre. Impuissant, plus jamais non.
Il suffit de pas grand chose au fond pour
qu'un puissant fasse des millions.
Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution?
Pourvu qu'on s'aime
et qu'on le sème.
Faut qu'on la prenne, qu'on le retienne.
Les gens qui rêvent font des révolutions.
Faut qu'on se lève,
qu'on se soulève.
Faire de ce chant notre résolution. Le tir sans trêve, sur toutes les lèvres.
On pourra lire notre révolution.
Révolution.
Même la fin du monde.
Chaque petite voix, c'est un cri d'amour qui compte. Pour faire bouger la ronde. Impuissant, puis des millions.
Avec la force du nombre, on fait de rien.
Puissant, puis des sillons.
Pour tracer sur notre route une révolution. Pourvu qu'on s'aime et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution.
Qu'on s'aime et qu'on le sème.
Que les rêves deviennent révolution.
Faut qu'on la prenne,
qu'on
le retienne.
Les gens qui rêvent font des révolutions.
Faut qu'on se lève,
qu'on se soulève.
Faire de ce chant notre résolution.
Le dire sans trêve sur toutes les lèvres.
Pour